Vous écoutez, on lit pour vous.
Des compagnies qui n'ont pas les moyens de jouer. Un texte de Catherine Lalonde paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir. Plusieurs compagnies programmées cette saison dans des théâtres importants tels que le Centre du Théâtre d'aujourd'hui, l'Espace Go ou le Périscope n'obtiennent pas leurs subventions de production. Elles ne peuvent boucler leur budget. Certaines choisissent d'annuler les représentations. D'autres vont de l'avant, à leurs frais. Regard sur ce que vivent ces compagnies et sur leurs conditions de travail. Ça ne peut pas continuer, estime la metteuse en scène Marie-Ève Groux à la tête du collectif Tôle avec son conjoint Maxime Brion. On a une expertise, on creuse un sillon, on se démarque, on est demandé, on est finaliste pour des prix, poursuit-elle, et imagine, on n'arrive pas à avoir les sous pour produire nos spectacles. Leur pièce, Bourdon, choisie doublement par le mois Multi et le Périscope, n'a reçu aucune des subventions demandées, ni provinciales ni fédérales. Zéro. Comme pour Tôle, plusieurs compagnies programmées cette saison dans des théâtres importants n'obtiennent pas leurs subventions de production. Il nous manque au moins 30 000 $ pour Bourdon, et ce serait pour un format très, très réduit du spectacle, poursuit Mme Groux, sur les raisons de l'annulation des 20 représentations prévues à Québec. J'ai investi de 160 à 180 heures là-dedans. On est allé à Québec pour travailler avec la grosse affaire par nos propres moyens. Tout ce temps, tout ce travail évaporé. Ce refus nous a scié les jambes, commente la metteuse en scène, 36 ans. En 2024, on a fait entre 18 000 $ et 20 000 $ de revenus chacun, Maxime et moi. Mais là, on est rendu un ménage avec un jeune enfant. On n'en peut plus. On va faire quoi? « Devenir directeur artistique pour du corporatif ?» se demande-t-elle. Manquer de spring. Pour Edith Patnaud, directrice artistique de l'Espace Go, qui voit les effets sur les compagnies qu'elle invite, cette situation est devenue trop systématique. « Nous avons redoublé d'ingéniosité et de contorsion depuis 2 ans, mais l'élastique est étiré à son maximum. » Les projets finissent souvent par se faire, explique-t-elle, ce qui camoufle le problème. Les compagnies investissent leurs fonds de création péniblement accumulés, ou un coproducteur subventionné au fonctionnement rattrape la balle et investit davantage, ou une fondation aide. L'Espace Go a lui-même investi des dizaines de milliers de dollars imprévus pour sauver un projet et ne pas rompre la relation avec le public. Et encore, des décisions artistiques crève-cœur ont dû être prises. S'exploser. On a gardé le décor d'explosion, qui est très lourd, depuis le mois de mars 2024 parce qu'on pensait qu'on allait jouer à Québec en janvier 2026, explique Mélodie Noël Rousseau, 39 ans, et Geneviève Labelle, 33 ans, de pleurer dans douche. L'entrepôt coûte 800 $ par mois. La pièce, pour 4 interprètes, devait être reprise 5 soirs au Périscope. Une seule subvention a été accordée. 2 étaient nécessaires. Le spectacle est annulé. On passe notre temps à quêter des scènes au gouvernement, poursuit Mme Noël Rousseau. Ma fonction, c'est artiste. Je trouve ça fou d'être devenue productrice, administratrice, comptable, d'engager des gens, de tenter de leur donner de bonnes conditions, sans jamais avoir les moyens. Pourquoi pas une levée de fonds? Honnêtement, on est épuisé et on a un bébé tout neuf. Conséquence, on ne va pas rencontrer notre public, on ne va pas à Québec et ça explose, explosion. C'est un gros show, ça ne peut pas tourner ailleurs qu'à Québec. Seule escale pour augmenter la longévité de cette création. Paris de pigiste. Catherine Fée-Pigeon est éclairagiste. Elle était de l'équipe d'Explosion. Mon calcul financier, quand je prépare mon calendrier de travailleuse autonome, c'est de choisir des contrats avec des compagnies qui font des shows de qualité, qui remplissent leurs salles, qui ont de bonnes critiques, parce que je me dis que j'ai plus de chances qu'elles reçoivent leurs subventions et que je touche mon cachet prévu. Depuis 2020, aucun des spectacles sur lesquels elle a travaillé n'a reçu toutes les subventions qu'ils avaient demandées et qui, ensemble, bouclent le budget. Travailler à l'aveugle. Surreal, so real, a demandé une subvention au Conseil des arts et des lettres du Québec, CALQ, pour produire le testament des célébrités au centre du théâtre d'aujourd'hui. L'écriture du texte inspiré de l'univers d'Harry Potter et de la vie des stars enfants qui ont incarné Harry, Hermione et Ron dans les films de cette série a été soutenue par une bourse d'écriture du Fonds Michel Rossignol. La subvention a été refusée. On a parlé avec l'équipe, budget en main, narre John Lachlan Stewart, directeur de la compagnie et auteur, 39 ans. Êtes-vous game de ne pas savoir combien vous allez être payé avant de jouer? Tous ont accepté, relate celui qui est aussi acteur et metteur en scène et qui ne se paiera rien, une fois de plus, à moins que la campagne de financement permette d'aller chercher 20 000 $ au lieu de l'objectif annoncé de 6 000 $. Au moment où ce texte était publié, la levée de fonds atteignait 5 800 $. S'exploiter. Cédric Laprate-Roy, 31 ans, n'a reçu aucune subvention pour Glissant, glissant, troisième pièce d'un triptyque programmé au centre du théâtre d'aujourd'hui en mars 2026. Il ne comprend pas pourquoi il est soutenu par le CALQ pour la création, mais jamais pour la production. Politiquement, on devrait tous arrêter de faire des shows quand on n'a pas nos subventions et laisser des trous dans les programmations, que ça se voit, ce que ça fait le manque de financement. Mais ce n'est pas ce que je vais faire, dit celui qui a lancé une collecte de fonds pour trouver les 10 000 $ qui lui permettront de jouer sans les décors et les costumes prévus. Au moment où ce texte était remis, la campagne titrée « Créer même quand on nous dit non » avait cumulé 13 000 $. Quand on fait des demandes de subventions, on est jugé beaucoup sur nos précédents projets. Si je ne fais pas le spectacle, je ne peux pas démontrer ma valeur artistique ni le développement de ma vision. Pour un précédent projet, il a vidé son CELI et investi 50 000 $ dans son art. Je me disais que c'était logique. Si j'étais un entrepreneur, j'investirais des premières années pour finir par avoir un salaire annuel de 100 000 $. Mais là, j'ai déjà investi 50 000 $ pour espérer avoir peut-être un jour, si je suis chanceux, un salaire de 35 000 $. Je sais déjà que je n'aurai jamais accès à la propriété si je reste artiste. On est prisonnier d'un système artistique où on doit s'exploiter nous-mêmes pour espérer moins s'exploiter plus tard, conclut M. Laprate-Roy. C'était « Des compagnies qui n'ont pas les moyens de jouer », un texte de Catherine Lalonde paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir.
La FAE dénonce une hausse alarmante de la violence faite aux enseignants, un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 15 décembre 2025 dans Le Devoir. C'est une situation inacceptable. Face aux résultats d'une consultation sur la violence envers les professeurs, la Fédération autonome de l'enseignement, FAE, dénonce une hausse alarmante des actes de violence et demande une rencontre avec la ministre québécoise de l'Éducation, Sonia Lebel, afin d'établir des solutions concrètes. Ce n'est pas vrai que la violence doit faire partie de notre job, a dénoncé Catherine Renaud, vice-présidente aux relations du travail à la FAE, en conférence de presse lundi. Sur les près de 2500 membres ayant répondu à la consultation, issus de tous les niveaux scolaires, du préscolaire à la formation aux adultes, 90% ont dit avoir été victimes d'actes de violence, toutes formes confondues. De ces professeurs ayant subi de la violence, 3 sur 5 ont soutenu avoir songé à quitter la profession à la suite des actes. De toute évidence, ce n'est pas en imposant le vouvoiement en janvier qu'on va éradiquer la violence dans nos écoles et dans nos centres. Nous avons besoin de solutions concrètes, pertinentes, pérennes et répondant aux besoins réels pour nos écoles et nos centres, a lancé Mme Renaud en annonçant avoir demandé une rencontre avec la ministre Lebel. Joint par Le Devoir, le cabinet de cette dernière confirme qu'il compte organiser une rencontre avec l'organisation syndicale qui représente 65 000 enseignants. On ne peut évidemment pas tolérer la violence et l'intimidation dans nos écoles. La ministre est ouverte à rencontrer la FAE pour échanger sur les données présentées aujourd'hui, lundi, soutient le cabinet dans une déclaration écrite. Bien que le ministère agisse déjà en prévention, nous serons toujours à l'écoute du personnel scolaire pour améliorer nos actions. Financement et solutions concrètes. Concrètement, la FAE souhaite demander que Québec investisse les sommes nécessaires sans condition pour que les établissements scolaires puissent embaucher les personnels et les ressources spécialisées, que les codes de vie et les plans de lutte contre l'intimidation soient appliqués et que les centres de services scolaires et les directions d'établissement facilite la déclaration des actes violents. La FAE se dit d'ailleurs bien consciente de la pénurie de main-d'œuvre qui touche tout le réseau d'éducation au Québec. Il faut se poser la question « pourquoi aussi ?». Aujourd'hui, on peut vous dire qu'il y a un lien direct entre la pénurie et la violence subie par les enseignantes et les enseignants. Également présent à la conférence de presse, Gabrielle Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire en matière d'éducation, a affirmé que si Sonia Lebel souhaite apaiser le réseau de l'éducation, comme elle a dit vouloir le faire, il faut envoyer du monde sur le terrain, envoyer du personnel de soutien, du personnel professionnel, faire de la prévention de la violence et s'occuper des jeunes pour que nos profs ensuite soient capables de faire leur travail. La députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole libérale en matière d'éducation, Madoua Nika Cadet, abonde dans un sens similaire. Selon elle, d'ici à la rentrée parlementaire en février 2026, la ministre dispose d'assez de temps pour pouvoir s'asseoir avec son réseau, pour pouvoir s'asseoir avec la FAE, puis peser sur l'accélérateur. On a compris que sa volonté, ce n'était pas de lancer des grands chantiers. Mais ça, ce ne serait pas lancer un nouveau chantier. Ce serait vraiment de régler une priorité du réseau à très court terme. En entrevue au Devoir, le porte-parole péquiste en matière d'éducation, Pascal Bérubé, est aussi d'avis que de protéger les enseignants devrait être une priorité du gouvernement. Ce dernier avait été invité à la conférence de presse, mais il n'a pas pu y assister en raison de la distance entre sa circonscription et Montréal. Le député de Matane-Matapédia est d'ailleurs du même avis que son homologue solidaire, les deux ne se disant pas surpris de voir les chiffres présentés lundi. J'ai pris connaissance des résultats de l'enquête de la FAE, puis j'aurais aimé ça vous dire que je suis tombée en bas de ma chaise. J'aurais aimé ça vous dire que je suis surpris. Mais Il n'y a personne qui est moindrement en contact avec le système d'éducation québécois qui pourrait vous dire ça, a lancé lundi M. Nadeau-Dubois en point de presse. Parce que la vérité, c'est que le niveau de violence dans les écoles du Québec, à bien des endroits, est devenu complètement insoutenable, a poursuivi le député en citant des exemples qu'on lui a communiqués lors d'une récente tournée du réseau. Quoi retenir de la consultation de la FAE sur la violence envers les profs? Comme 90% des 2443 professeurs répondants ont affirmé avoir vécu de la violence en milieu scolaire, la FAE qualifie la situation d'urgente. Avec 81% des répondants disant en avoir vécu, c'est la violence psychologique ou verbale qui est la plus couramment subie par les professeurs. C'est ensuite la violence physique, 63%, qui est la plus courante. Des enseignants consultés, 11% ont souligné avoir vécu de la violence à caractère sexuel. Les enseignants au préscolaire ont vécu plus de violences physiques, une situation que la FAE estime être généralisée pour les classes de ce niveau, alors que la violence psychologique est plus prévalente au secondaire. Au primaire, on dénote toutes sortes de violences, précise Catherine Renaud. En formation professionnelle et aux adultes, c'est plutôt des cas d'intimidation qui sont soulevés. La vice-présidente aux relations du travail à la FAE soutient aussi que les statistiques présentées lundi représentent exactement la situation sur le terrain dans les différents centres de services scolaires. Lorsque l'on compare ces données avec la dernière consultation du regroupement syndical qui date de 2010, l'on observe une plus grande proportion de professeurs ayant vécu de la violence en 2025. Or, il faut analyser les résultats avec une certaine prudence, prévient la FAE. Comme les échantillons des deux consultations sont différents et les résultats n'ont pas été obtenus sur la base des mêmes indicateurs et échelles de mesure, la marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste de cette taille est de 1,94%, 19 fois sur 20. La consultation s'est déroulée d'avril à mai 2025 auprès des 9 syndicats affiliés à la FAE. C'était « La FAE dénonce une hausse alarmante de la violence faite aux enseignants », un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 15 décembre 2025 dans Le Devoir.
Pas de répit pour la disparition des milieux humides. Un texte d'Alexandre Schill paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir. Près de 10 ans après l'adoption de la loi censée freiner la disparition des milieux humides au Québec, l'échec semble évident. Les données fournies au Devoir par le ministère de l'Environnement démontrent que le gouvernement a accordé des milliers d'autorisations permettant de détruire ces écosystèmes essentiels tout en accumulant plus de 270 millions de dollars en dédommagement. Malgré ce pactole, les compensations sont, pour ainsi dire, inexistantes. En adoptant en juin 2017 la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, le gouvernement du Québec promettait non seulement, citation, de freiner la perte de milieux humides, mais aussi de viser certains gains nets, fin de citation, le tout en s'appuyant, citation, sur le principe d'aucune perte nette, fin de citation. À la lumière des plus récentes données disponibles auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, tout indique que ces engagements n'ont pas été respectés. Les informations mises à jour en novembre font ainsi état de 5361 autorisations d'empiètement sur des milieux humides, pour un total de 72,4 millions de mètres carrés, l'équivalent de 10 140 terrains de soccer de la Coupe du monde. Les données fournies ne permettent pas de distinguer s'il s'agit d'une atteinte temporaire, partielle ou permanente. Citation : Notre ancien système de suivi ne nous permettait pas de faire la distinction entre les différents types d'atteintes. Fin de citation, indique le ministère responsable de la protection de ces écosystèmes naturels essentiels pour la protection de la biodiversité, la protection de l'eau et l'adaptation aux bouleversements climatiques. Espèces menacées. Le ministère de l'Environnement a toutefois été en mesure de préciser qu'entre janvier 2024 et octobre 2025, plus de 9 millions de mètres carrés ont été rayés de la carte. Ces destructions comprennent celles autorisées sur le terrain du défunt projet Northvolt en Montérégie. Avec le soutien du gouvernement Legault, l'entreprise a du même coup détruit des habitats d'espèces menacées. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas du genre. Selon les données du ministère, 716 autorisations accordées depuis 2017, citation, ont été délivrées avec un indicateur positif de présence d'espèces menacées ou vulnérables. Elles peuvent être floristiques ou fauniques. Notre suivi ne fait pas cette distinction. Fin de citation. Au lieu d'éviter de faire disparaître des milieux humides qui ont pris parfois des milliers d'années à se former, les promoteurs peuvent verser des compensations financières au gouvernement. Celles-ci doivent normalement être utilisées afin de restaurer ou recréer de nouveaux milieux humides. Depuis 2017, plus de 270 millions de dollars ont ainsi été accumulés. Or, en date du octobre 2025, à peine plus de 3,2 millions de dollars ont été dépensés pour la restauration ou la création, indiquent les données. Ce montant équivaut à 1,18% de la somme totale disponible. Les données semblent cependant indiquer qu'aucun projet visant à restaurer ou créer des milieux humides n'a été mené à terme. Dans le cadre du volet 1 du programme, mis en place par le gouvernement pour investir les fonds disponibles, un total de 41 projets de soutien à la réalisation d'études préalables de projets de restauration ou de création de milieux humides et hydriques sont terminés, et 37 autres sont présentement en cours de réalisation. Dans le cadre du volet 2, qui doit permettre de réaliser des projets concrets, on dénombre 9 projets guillemets, en cours de réalisation fin des guillemets, pour une superficie totale de 855 359 mètres carrés. Cela équivaut à 1,18% de la superficie des empiètements autorisés depuis l'adoption de la loi en 2017. Extrêmement préoccupant. Citation, je suis extrêmement étonné. Le programme a été mis en place en 2017 et encore aujourd'hui, aucun projet n'a été terminé. C'est extrêmement préoccupant, affirme Julie Talbot, professeure au département de géographie de l'Université de Montréal et spécialiste des impacts des activités humaines sur le fonctionnement des écosystèmes naturels, en particulier des milieux humides. Citation, l'objectif de la loi était d'arriver à zéro perte nette. Mais ce qu'on voit dans les faits, ce n'est pas ça du tout. Il y a des pertes, on accumule de l'argent qui est censé servir à faire des compensations, mais concrètement, on ne le fait pas, déplore-t-elle. Fin de citation. Le nombre d'autorisations et les superficies impliquées lui semblent aussi beaucoup trop élevés pour préserver les fonctions écosystémiques de ces milieux. Citation, « Nous sommes toujours dans une zone famélique. » Fin de citation en matière de restauration et de création, résume pour sa part Stéphanie Pellerin, professeure associée au département des sciences biologiques de l'Université de Montréal, chercheuse à l'Institut de recherche en biologie végétale et botanistique au Jardin botanique de Montréal. Les données financières du ministère de l'Environnement démontrent, selon elle, que la législation n'a absolument pas permis de freiner la destruction. Citation, « La loi devait être conçue pour que les gens se détruisent moins, parce que la compensation aurait un coût dissuasif. Mais ça reste peu coûteux pour un promoteur de prendre un site avec des milieux humides et de les détruire. » Fin de citation. Qui plus est, les fonds disponibles seraient insuffisants à supposer qu'on puisse un jour recréer ou restaurer davantage de milieux humides. Citation, les coûts de la restauration sont beaucoup élevés, plus que ce qui avait été prévu. Si on veut compenser la même superficie, il n'y aura pas assez d'argent dans le fonds. Laisse tomber Stéphanie Pellerin. Un point de vue que partage Monique Poulain, professeure affiliée à l'Institut en environnement, développement et société de l'Université Laval. Cette dernière insiste aussi sur le rôle crucial que jouent les espaces naturels perdus. Citation, « On ne freine pas la perte de milieux humides, alors qu'ils jouent plusieurs rôles, notamment pour la régulation de l'eau. Ce sera un enjeu de plus en plus important dans un contexte de changement climatique. » Fin de citation. Directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard, plaide pour une réforme urgente de la législation. Citation, « Il faut donner un réel mordant à la loi. Le gouvernement doit inscrire clairement dans la législation que l'ordre « éviter, minimiser, compenser » est obligatoire avec des balises strictes et applicables. Les promoteurs responsables pourraient être tenus de réaliser eux-mêmes les projets compensatoires comme c'est exigé en vertu de la loi sur les pêches au fédéral. Fin de citation. Au cabinet du ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, on affirme que, citation, « Le gouvernement et les municipalités travaillent activement pour atteindre l'objectif d'aucune perte nette des milieux humides et hydriques. » Fin de citation. Une évaluation est aussi prévue en 2017. Citation, ce bilan sera fait en 2027. Avant cette échéance, il serait prématuré d'engager un chantier législatif majeur. Notre priorité demeure la mise en œuvre complète des outils existants pour protéger ces milieux essentiels. Fin de citation. En 2023, le commissaire au développement durable avait relevé plusieurs lacunes dans l'application de la loi. Deux ans plus tard, le gouvernement promet un bilan dans deux ans. C'était « Pas de répit pour la disparition des milieux humides », un texte d'Alexandre Schill publié dans Le Devoir du 8 décembre 2025.